C'est l'artichaut.
Artichaut.
C'est l'artichaut.
Le moment où on parle d'art.
Pourquoi c'est connu?
Personnellement, j'adore l'artichaut. Cette émission qui parle d'art.
Un Américain avait mis 9 minutes 45 secondes pour visiter le musée du Louvre.
Et nous, on met 35 minutes à chaque fois, tous les vendredis soirs, à vous régaler en parlant d'art avec Carotte au micro de Erdiwa, comme chaque vendredi soir.
Bonjour mes chéris, bonsoir devrais-je dire. Mes chéris, Malo, tu vas bien?
Eh ben écoute, ça va toujours bien qu'on parle d'art et qu'on est ensemble dans les studios de Erdiwa à Lux. C'est toujours un plaisir de partager ces moments-là.
Oui, alors cette semaine, donc là, on s'attaque un peu à un monument. Donc c'est pour ça que je vais être un peu aidée par mes fiches, un peu de Wikipédia, un peu de Beaux-Arts Magazine. Donc excusez-moi pour peut-être le manque d'originalité, mais en fait je ne veux rien louper de cet artiste qui m'est très très cher. Donc aujourd'hui, Malo, nous allons parler de Vassili Kandinsky, qui est un peintre russe qui peut être considéré comme le père de l'art abstrait. Enfin, c'est un des plus grands peintres du XXe siècle parce qu'il a inventé vraiment un langage à lui, et son œuvre est très foisonnante et elle marque aussi un accompagnement visuel pour comprendre les sciences. Parce que de mon point de vue, Malo, on a affaire avec Kandinsky à vraiment un très grand esprit de notre temps, avec justement un néocortex très développé, donc à la fois un homme de science et d'observation, qui a à la base une très grande sensibilité pour la couleur. Je me suis même, tu vois, interrogée à savoir s'il n'avait pas un genre de maladie dans les yeux qui lui fasse voir les couleurs d'une manière vraiment unique et personnelle, et que peut-être ça lui aurait permis de faire ce bond dans ce nouveau langage.
Maladie ou un don, parce que avoir ces œuvres que j'ai sous les yeux, c'est vraiment magnifique, et comme tu dis, ça foisonne et je suis assez impressionnée. Je crois que je pourrais passer des heures et des heures à regarder toutes ces œuvres assez abstraites et très originales, très colorées, ça fait du bien aux yeux.
Alors, ce qu'on peut voir dans l'œuvre de Kandinsky, c'est que il y a une évolution. Donc, alors, on va parler déjà de sa jeunesse. Donc, il est né à Moscou en décembre 1866, dans une famille assez aisée, parce que du côté de son père, ils avaient fait fortune dans le thé et les marchands de fourrure. Et que sa mère venait d'une famille noble moscovite. Donc il a la chance de naître dans une famille très cultivée qui va très tôt l'initier à la peinture et au dessin. Et en plus, grâce à son père qui est marchand et voyageur, il va avoir la chance d'aller en Italie tout petit. Et il va être subjugué déjà par la peinture et les couleurs. C'est pour ça que je me demande s'il n'a pas un truc dans sa façon de voir, parce que clairement on dirait presque, tu vois, que c'est de la peinture sous LSD, on pourrait dire. Et ensuite il va commencer par faire des études de droit. Donc c'est là qu'on va s'apercevoir que dans toute l'étendue de son savoir, c'est un créatif, mais ça va être aussi un excellent pédagogue, parce qu'il va être professeur dans des universités. Il a ce don une vision, la création d'un monde. Donc il dit faire de la peinture, c'est créer un autre monde, un autre univers. On peut voir aussi son temps, parce qu'en fait il est dans un moment des sciences où on va s'apercevoir que l'atome est sécable, c'est-à-dire qu'on peut couper un atome. Et du coup ça va remettre en question tout un tas de théories scientifiques d'avant, pour commencer à un monde d'après de l'infiniment petit, qui peut en plus, comme une mise en abîme, générer de l'infiniment petit qui génère de l'infiniment petit. Donc on va avoir un gars qui va commencer par abandonner toute sa carrière d'avocat et de machin pour se consacrer qu'à la peinture assez tardivement, vers ses 30 ans. Donc en plus, il y a une maturité, c'est-à-dire il ne se met pas à la peinture comme un foufou d'adolescent. Il va d'abord faire tout un chemin de vie, de travail et de formation dans des académies de dessin, de peinture, mais d'architecture et aussi des études de droit. Du coup, bon, il a un cerveau vraiment bien rempli et il a ce don pour ressentir les émotions que provoquent les couleurs. Donc, il est en avance sur moi, par exemple, parce que moi, c'est à force de manipuler les couleurs que j'ai vues, de, les états de modifier de conscience dans lesquels elles me mettent. Mais lui, on dirait que c'est carrément naturel et instinctif chez lui. Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va commencer par travailler la peinture de manière figurative. Donc, j'explique aux gens, mes petits chéris, la manière figurative, c'est de faire un chat. Donc, c'est se rapprocher le mieux de la réalité, de ce qu'on voit. Et puis, petit à petit, il va défigurer, c'est-à-dire qu'il va enlever la matière figurative réelle pour ne s'intéresser qu'à ce que procurent les couleurs et les mouvements géométriques sur l'âme et sur le sujet qui regarde. Alors, à propos de ce que tu disais sur la petite fenêtre par laquelle on devrait regarder l'œuvre de Kandinsky, j'ai entendu quelqu'un, un genre de commissaire d'exposition, qui disait qu'il faut au minimum 3 heures à un cerveau normal, en pleine conscience de l'observation d'un Kandinsky,
pour comprendre pouvoir, la grandeur du...
Ouais, puis voir commencer le truc à s'animer, c'est-à-dire comprendre la danse, comprendre si on a affaire à de l'infiniment grand, parce qu'en fait, il va mettre de la spiritualité dans l'art et il va s'intéresser à des représentations cosmiques, ce qui se passe dans l'infiniment grand, la danse cosmique. Et par rapport à l'atome et aussi au progrès dans la science, microscope et autres manières de pouvoir maintenant visualiser l'infiniment petit avec des outils modernes de technologie médicale moderne, donc de s'attaquer à l'infiniment petit. Et on a l'impression qu'on est dans des boîtes de pétri à un moment donné en train de regarder des microbes en train de faire leur mitose et de se scinder, ou à des grandes danses cosmiques. Alors, il va passer par une étape intermédiaire où en fait, il va faire des formes qu'on peut lire, un cheval. Donc, par exemple, le cheval, le cavalier, ça va être un de ses sujets de base de prédilection. La force, le mouvement, la dynamique du cheval, le côté terrestre et aussi de l'absorption des ondes du cheval, le côté vibratoire, tellurique d'un cheval. Il va y avoir des formes qui vont être remplies avec des couleurs qui ne sont pas la forme. Par exemple, la montagne va devenir jaune ou bleue ou rouge. On va bien voir que la forme, c'est celle d'une montagne, que le petit dessin géométrique avec un toit, c'est celui d'une maison, mais il va commencer déjà par jouer avec les couleurs. Comme si, franchement, Malo, il était trippé au LSD, quoi. Il y a un côté, puis il y a un côté lâcher prise.
Lâcher prise et un côté, du coup, un peu enfant, de, tu sais, de vraiment exprimer un peu sensiblement ce que tu as envie de créer. Et comme tu m'as dit qu'on parlait de lui, je me suis renseignée un petit peu et il se trouve que beaucoup de professeurs ou de parents s'inspirent de ses œuvres pour éduquer leur enfant justement à l'abstrait et au fait de c'est ok que ça représente pas quelque chose vraiment dans les dessins tant que ça crée quelque chose pour toi, quoi. Et
exactement.
Que les couleurs donnent un sens, que tes formes revendiquent quelque chose pour toi intérieurement.
Exactement.
Et du coup, c'est chouette de voir que des peintres comme ça puissent encore influer sur la créativité des enfants aujourd'hui.
Ouais, ben c'est qu'en art, on ne peut pas vraiment se tromper. Mais il faut bien voir qu'il a affaire à tout un mouvement de peinture. Donc, tu vois, on était avec Tamara Delampica, Sonia Delaunay. Donc, par exemple, il a des rapports avec Sonia Delaunay. Il va même travailler avec Robert Delaunay, tu sais, sur la lumière, le soleil, les taches de résistance rétinienne dans les yeux et tout ça. Donc, mélanger ensemble les sciences et l'art. Donc ça c'est carrément génial parce que là on voit bien, on a tendance à séparer les mondes, mais l'artiste c'est un génie qui sait un peu tout faire, il doit savoir tout faire et il doit avoir un peu une opinion ou un avis ou un esprit critique un peu sur tout,
une conception en tout cas du monde, sur plein de volets différents.
Et lui, il est capable de reconnecter des choses qui n'ont a priori rien à voir entre elles et à trouver des liens qui les unissent. Et en même temps, donc, on va arriver dans les années 30. Donc là, comme on l'avait vu avec, par exemple, Tamara Delampica, à ce moment-là, quand lui, il va arriver à Paris tardivement, il va arriver dans un... Il n'y a pas encore le surréalisme. Là, on est vraiment plus sur l'art déco, le cubisme, là où on a laissé un peu Tamara Delampica. Et après, lui, il va faire la transition avec, après, le mouvement des surréalismes et des dadas, avec Breton, Ernst, etc. Où là, on va revenir à une représentation figurative qui va être une représentation de l'inconscient ou du rêve. Mais où là, les choses sont bien matérialisées. Un homme ressemble à un homme, un chien ressemble à un chien, une cage à une cage, la pipe à la pipe, le chapeau au chapeau. Que Kandinsky va prendre un risque fou, parce que à contre-courant et dans un univers qui est encore vraiment très attaché à la figure représentée, il va se lâcher. Donc dans un premier temps, il va être un petit peu tout seul. Et puis son copain Franz Marc va venir à la rescousse. Et là, il va recréer pas vraiment des écoles, mais on va dire des petits mouvements dans lesquels ils vont être plusieurs à travailler dans la même direction. Alors, il faut que je vous dise quand même que ce gars-là, il a vachement voyagé parce qu'en fait, il est moscovite, mais ensuite, il va être naturalisé allemand, il va fuir le nazisme et il va finir naturalisé français. Du coup, il va faire toute l'Europe d'est en ouest avec comme un peu un gitan dans ses bagages toutes les cultures qui l'emmènent avec lui et qui transbahutent parce que c'est quand même quelqu'un du savoir, de la parole, de l'érudition. Et il va faire aussi un repas en Russie où il va vouloir développer la politique culturelle russe. Et donc, quand il ne peint pas, par exemple, à ce retour en Russie où il va vraiment faire de la politique culturelle, il est à fond de projet, c'est-à-dire il est à fond dans sa dynamique et il peut passer d'une casquette à une autre avec beaucoup de facilité. Donc, franchement, c'est une super tronche. Alors par contre, j'ai pas de, par rapport à cette super tronche, j'ai pas de, d'anecdotes rigolotes, j'ai pas trouvé d'anecdotes rigolotes pour un peu trahir en fait une personnalité de clown ou de mariole. Donc ça, je sais pas trop comment il était dans sa vie privée. Je pense qu'il était assez sérieux et qu'il voyait quand même tout comme un travail et une recherche. Robert Delaunay, qui était quand même un bon danseur et tout ça, et qui aimait bien faire la fête, bon, je pense qu'avec Delaunay, il devait quand même un peu sortir et aller danser. Et du coup, alors, reprenons ce côté de la danse, parce que les noms des tableaux que Kandinsky a donnés à ses œuvres ont souvent un rapport avec la musique. Du coup, on a des compositions, des improvisations. Et ça, c'est vraiment le vocabulaire musical parce qu'il travaille en musique. Et pour lui, ben voilà, les couleurs font de la musique, les musiques sont des couleurs, tout ça se mélange. Alors, on voit un peu son côté scientifique dans les échiquiers qu'il va commencer à utiliser. Donc, il va faire une abstraction. D'abord, il va faire de la figuration avec des couleurs qui ne sont pas les couleurs qu'on voit dans la nature. Ensuite, il va partir comme un chef d'orchestre qui aurait une baguette magique. On dirait qu'il est le chef d'orchestre d'un tableau qui fait de la musique, qu'il est en train de fabriquer lui-même. Et que ses grands traits de pinceau, style l'arc ou la ligne, c'est comme un chef d'orchestre qui s'agiterait pour une composition picturale. Et on ne sait pas du coup vraiment à quoi on a affaire. Il faut se plonger dedans et avec une petite forme d'humilité pour laisser les choses agir. Différents plans se mettent en forme. Et là, on s'aperçoit que c'est pas du tout tellement spontané, tu vois, Malo. Que en fait, derrière chacun de ces petits zigouigouis ou formes géométriques ou non, petits traits de dynamisme ou couleurs employées, il y a une sacrée, j'allais dire un gros mot, mais il y a une énorme recherche derrière ça. Donc, on retourne sur la théorie des contrastes des couleurs qui sont vibrantes quand elles sont les unes à côté des autres, qui sont en plus redynamisées par des coups de peinture avec des traits épais et noirs qui viennent donner un mouvement. Donc, comme on était avec Delaunay et Sonia dans rythme et couleur, là, on est vraiment dans couleur et dynamisme. Enfin, on retrouve à peu près le même type de façon de faire avec deux formes qui sont totalement personnelles pour les uns comme pour les autres. Donc, c'est assez, assez merveilleux.
Et pour revenir sur le côté de la présence de la musique dans sa peinture, j'ai appris qu'il était ce qu'on appelle synesthète. Je ne sais pas si ça te parle.
Non.
Mais
La synesthésie. Ouais.
En fait, on est presque sûr qu'il était atteint de synesthésie et ça signifie que le cerveau associe différentes sensations qui ne sont d'ordinaire pas liées les unes aux autres. Et dans son cas, le chevauchement se faisait entre les couleurs et la musique. Et il pouvait entendre les couleurs et il voyait la musique. Et certains experts pensent même que l'artiste associait le jaune à la trompette, le rouge au violon et le bleu à l'orgue.
Tu vois, il y a une composition musicale. Donc en fait, il faudrait carrément mettre des orchestres devant les tableaux de Kandinsky et ils seraient capables de nous jouer une mélodie en ayant chacun sa couleur. Donc c'est assez fou. Alors il dit qu'il voit mentalement toutes les couleurs qui se tiennent devant ses yeux. Il voyait des lignes sauvages presque folles qui se dessinaient devant moi. Et ça, c'est quand il écoute des opéras comme Lohengrin, Wagner. Du coup, ouais, clairement, on dirait qu'il a eu quelques gouttes de LSD que lui ont donné les fées au-dessus de son berceau, quoi. Et en même temps, donc, il applique les nouvelles théories de la physique avec la désintégration de l'atome. Donc, du coup, on voit que désintégration de l'atome, ça lui évoque défiguration, c'est-à-dire on enlève la figuration. On va à l'intérieur de ce qu'on éprouve. Et quelque part, c'est un sentiment intérieur qui est extériorisé par une dynamique des couleurs et du mouvement. C'est assez fabuleux. Et en plus, je trouve qu'il y a une gaieté là-dedans. C'est pour ça qu'il a l'air tout sérieux avec ses lunettes et tout. Il a l'air super d'un intello. Mais que clairement il devait être très, très mariole. Parce que, je veux dire, tu te baladerais sans arrêt sous LSD, tu n'arrêterais pas de rigoler.
Enfin, puis il y a un côté... Enfin, là, du coup, tu donnes l'exemple du LSD, mais tu l'as dit tout à l'heure aussi. Mais c'était un personnage qui avait l'air d'être très attiré par le spirituel et le mystique. Et je pense que ça fait aussi grandement... partie de son influence LSD ou pas, quoi. C'est aussi peut-être ça qu'il essaye de retranscrire dans ses œuvres.
Alors du coup, il a écrit des bouquins aussi. Donc tu parlais de la spiritualité dans la
peinture. Tout à fait,
dans
j'ai
la peinture.
Vu.
Ouais, voilà, donc la spiritualité, le sacré dans la peinture, l'idée de Dieu dans la peinture.
Si donc, ça vous intéresse, c'est dans les éditions Folio, le livre. C'est Kandinsky, du spirituel dans l'art et dans la peinture en particulier. On aime bien vous donner des petits conseils de BD ou de bouquins à acheter après nos émissions. Si les peintres qu'on évoque vous inspirent et que vous voulez trouver toujours plus d'informations et de récits, ça se trouve dans toutes les bonnes librairies du coin. Et il y a même des puzzles qui existent.
Ah oui, non, mais il a dû, on peut le démonter à l'infini, on peut en faire... c'est une merveille, quoi, parce que c'est tellement dense et c'est
j'adore.
Tellement profond qu'on peut en faire un peu ce qu'on veut. Bah, tu me disais que c'était utilisé dans les écoles et dans les maternelles comme
support.
Ouais,
c'est incroyable.
Et comme idée. Alors là, par exemple, on pourrait parler d'une peinture de 1908-1909 qui s'appelle « La montagne bleue ». et qui montre comment il avance vers l'abstraction pure. Donc, on voit bien que la montagne apparaît entre deux grands arbres, un arbre jaune, un arbre rouge, au centre une montagne bleue. Il y a un petit groupe de trois cavaliers et des petits personnages qui traversent en bas de la toile. Les visages, les habits, les selles des cavaliers sont de couleur unie avec des aplats. Et aucun des personnages n'a de détails réalistes sur lesquels on pourrait s'employer. Il y a un large emploi de la couleur. Et on voit bien dans ce tableau que la couleur est appliquée indépendamment de la forme. Il a mélangé ce que l'œil a l'habitude de voir.
Et en parlant... Pardon.
Ouais, ben vas-y.
Non, parce qu'en fait, t'étais sur le bleu, de la montagne bleue. Et tout à l'heure aussi, tu disais qu'il avait fait beaucoup d'initiatives artistiques de grande ampleur, et notamment le cavalier bleu.
Ouais,
je sais pas si tu comptes en parler ou pas.
Writer. Ouais, on y viendra après. Donc, vers 1910, il va appeler ça le cœur des couleurs. Et ça va devenir de plus en plus éclatant. Il va essayer de mettre un vrai pouvoir émotif à l'impact intérieur de sa peinture, et on ressent dedans aussi une signification cosmique très intense, c'est-à-dire vraiment il y a une élévation vers l'infiniment grand, d'où cette forme de spiritualité dans l'art, quoi, quelque chose qui tire par en haut sans arrêt. Alors j'ai lu que cette évolution était soi-disant attribuée à un ouvrage de Goethe qui s'appelle Le Traité des couleurs, et qui aurait influencé donc son livre qui s'appelle Du spirituel dans l'art, et il en a fait un autre qui s'appelle Regard sur le passé. Et donc il semblerait qu'après avoir fait ça, l'année d'après, il va faire sa première œuvre complètement abstraite, où donc il cherche à substituer la figuration, voire même l'imitation de la figuration, la simplification de la figuration, par de l'abstraction pure. Donc il nous, je veux dire, il nous largue quelque part, tu vois, il laisse le spectateur arpenter un grand no man's land inconnu comme une planète merveilleuse, et puis se mouvoir dedans avec chacun, justement, sa pensée, sa réalité, et comment nous, on peut se projeter dans ces univers-là où il n'y a rien de palpable, rien de tangible, mais une espèce de danse cosmique colorée qui vient te prendre par la main. Il a fallu quand même aussi un peu du temps pour les visiteurs, les curieux, les spectateurs, les amoureux de la peinture, pour pouvoir accommoder leur regard à ce type d'abstraction. Bon, aujourd'hui, c'est vrai qu'en 2024, ou bientôt, ça va faire 70 ans que les artistes se sont lancés dans l'abstraction. Là, je dois dire que lui, il fait comme un tour, une globalisation, parce que finalement... Il y a plus grand chose à faire après Kandinsky. Enfin, je veux dire, après, on peut jouer comme Elmer l'éléphant à des géométries de couleurs, ou s'essayer chacun à poser côte à côte des aplats de couleurs, et puis commencer à écouter de la musique, et puis jeter les bras en l'air avec des crayons au bout des doigts et faire ce qu'il en sort. Mais finalement, lui, il a déjà tout fait, ça. Et du coup, j'aurais tendance à dire qu'après ce flot de l'abstraction, ben il va falloir après repartir à une figuration, tu vois. Du coup, les surréalismes vont avoir aussi toute leur importance, c'est-à-dire, voilà, on balance les gens dans l'espace, et puis après, toc, on les ramène sur Terre avec des vraies personnes, et puis toc, on les rebalance dans l'espace. Alors, on parlait du cavalier bleu. Donc, le cavalier bleu, c'est 1911-1914, donc on est juste avant la guerre. Et dans ce moment-là, il va commencer à faire des grandes masses de couleurs très expressives, et des lignes qui servent plus à délimiter ou à mettre en valeur, mais qui se combinent avec les couleurs, qui se superposent, se chevauchent pour former des toiles qui, en fait, ont une force vraiment extraordinaire et assez surprenante. Donc, on parlait de la musique. Donc, faire passer le monde intérieur vers l'extérieur, et aussi l'immédiateté d'un sentiment ou d'une émotion. Comment on peut traduire quand finalement tu es transpercé par une émotion fulgurante et que même le temps de la peindre va prendre plus de temps que de la montée d'émotion. Donc comment tu gères ça dans ta composition? Et on va voir que ces peintures qui deviennent de plus en plus spontanées et qui va lui-même appeler improvisation, vont venir se superposer à des toiles plus élaborées, plus complexe, plus travaillé, qu'il va nommer composition. Donc du coup, rien qu'avec le nom de sa peinture, il nous exprime s'il a été vite dans vraiment le spontané ou si c'est plus mûrement réfléchi. Donc là, on va reparler de la synesthésie donc, qui est donc d'associer des couleurs et des sons. Donc nous, il faut qu'on se drogue un peu, mais lui, apparemment, c'était naturel. Et du coup, il va commencer à penser à créer une théorie de l'art. Un truc qui tienne la route, c'est-à-dire théoriser ce qu'il est en train d'élaborer dans sa vie d'artiste. Donc, il va fonder l'Association des nouveaux artistes de Munich. Il va en être le président en 1909. Sauf que le groupe, il n'est pas capable d'intégrer une approche aussi radicale. Donc, ça va partir en sucette. Et donc, c'est là qu'il va faire une nouvelle association avec Franz Marc, et qui a vraiment une conception plus proche de lui, qui le comprend mieux. Et ils vont monter un almanach qui va s'appeler l'almanach du Cavalier Bleu, donc appelé Die Blaue Reiter. Et c'est le 19 juin 1911 qu'il annonce dans une lettre à Marc l'idée de faire cet almanach. Donc, ils avaient prévu plusieurs numéros, mais comme la Première Guerre mondiale est déclarée, eh ben, voilà, ça s'arrête. Et Kandinsky va retourner chez lui en Russie via la Suisse et la Suède. Donc, c'est là, donc, en Russie, qu'il va faire un break sur la peinture pour s'occuper du développement culturel en Russie. Et il va y laisser ses marques de noblesse. Et puis, finalement, eh ben, il va devoir repartir pour Paris. Et c'est là qu'il va reprendre la peinture et retravailler sur une autre forme. Donc là, si tu vois, ben, il y a les cercles et les carrés et les cercles concentriques de 1913. Après, il y a carrément un tableau qui porte un numéro 293. Les compositions 6, la composition avec l'arc noir... Et pour les critiques d'art, cette peinture de 1912 là avec l'arc noir, et c'est considéré comme une des premières œuvres abstraites de l'histoire de la peinture. Il libère tout, il libère l'artiste de tout, de la couleur, de la figure, de la représentation du monde. Et il cherche à provoquer chez le visiteur, donc plutôt que dire « Ah, c'est beau, c'est bien fait hein, », comme on faisait avant, de dire « Ah, mais quel est cet état d'esprit, dans quoi là je plonge, quelle est cette méditation dans laquelle mon cerveau est en train de se mettre, quel est ce rêve éveillé qui m'est proposé ?»
Donc envie voilà. De surprendre, en fait.
Ben, de surprendre et puis de surtout voir ça comme... quelque chose qui, comme tu prendrais une drogue en fait, c'est-à-dire tu regardes quelque chose et ça agit et ça modifie ta conscience.
Carotte, tu aimes beaucoup trop les drogues,
non,
tu en
pas...
parles beaucoup
non,
trop.
C'est pas ça que je dis, mais déjà, la drogue, elle fait partie de l'histoire de l'humanité depuis la nuit des temps. Donc c'est souvent grâce à elle qu'on sait qu'on a plus de 10% utilisé dans notre cerveau, sinon on ne le saurait pas et on serait très bête. Et d'autre part, ben, quand on n'a pas les chances d'avoir des petits atouts génétiques, style la synesthésie, là, et ben, de savoir que ça peut aider. Après, je pense que sinon, c'est le travail et la concentration, c'est-à-dire se plonger longtemps dans quelque chose permet à un moment donné de globaliser ou de s'extraire de la chose ou de comprendre merveilleusement bien la chose. Bon, voilà, il faut longtemps porter attention à quelque chose pour en comprendre la substantifique moelle. Et là, par le biais de cette défigurisation, défigurer la réalité, ben du coup, il place le spectateur devant un paysage qu'on ne connaît pas, nouveau, c'est d'une, quoi. Et du coup, chacun le prend avec les armes qu'il a et qu'il le compose. Mais c'est vrai que là, clairement, il veut s'intéresser à l'émotionnel. Il ne s'agit plus de la forme et du fond. « Oh, je vais traiter la guerre, oh, je vais traiter Marie-Antoinette. » Non, 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 non. Il s'agit de nous dedans, le dedans de nous, les couleurs et comment représenter le dedans émotionnel de toi quand tu es amoureuse, quand tu es en colère, quand tu te sens vraiment psychologiquement éveillé, connecté avec la terre et tes semblables, enfin ce type de truc. Donc il y a de la psychologie et de l'art, de la science et de l'art, de l'atomique et de l'art. C'est très humaniste et ça participe aussi de la recherche sur nous-mêmes. Et c'est probablement à partir de là qu'on dit l'expression artistique est offerte à tous. T'es en souffrance, t'as quelque chose à exprimer, ben vas-y, lance-toi. Alors qu'avant, on aurait dit, ben non, faut passer par une école des beaux-arts, ben oui, mais si tu fais qu'un bonhomme patate, tu seras jamais bon en art. Ben non, Kandinsky, il ouvre à tous. C'est en art, on peut pas se tromper. Si t'es sincère, au moment où tu fais, si t'es un peu éveillé, un peu dans l'éveil de toi et que t'as vraiment quelque chose à sortir, mais fais-toi confiance, tu ne peux pas te tromper sur toi-même. Ce qui sortira, ce sera forcément merveilleux.
Waouh. Non, mais ça, c'est du coup, beau, ça va donner envie à tout le monde, tous les auditeurs, y compris moi-même, de faire de l'art.
Mais oui, mais il faut. Enfin, la pratique de l'art, elle est nécessaire à notre harmonie et à notre bonheur ici sur Terre. On nous a donné ça pour être heureux ici-bas. Donc, c'est dommage de ne pas en profiter. Alors moi, j'ai eu la chance de découvrir Kandinsky et on finira là-dessus. Si vous avez l'occasion de partir en vacances sur la Côte d'Azur, d'aller à Saint-Paul-de-Vence, à la Fondation Maeg. Alors je pense que l'entrée est peut-être un peu chère maintenant, mais vous ne regretterez pas, je vous assure. Donc moi, j'ai eu la chance d'aller passer un an avec ma maman quand j'étais petite à Grasse. Et donc la première fois qu'elle m'a emmenée à la Fondation Maeg, mais j'ai voulu y habiter, quoi. En fait, pour moi, c'était le paradis, c'est mon paradis sur Terre. Donc l'architecture de ce musée est fabuleuse. Et ce qu'on y trouve est fabuleuse, pardon. Et ce qu'on y trouve dedans, c'est le meilleur de l'art moderne que j'aime. Donc Kandinsky, il y a sa place. Et c'est là que j'ai vu ces microbes et les échiquiers. Et ça m'a, tu vois, j'avais 6 ans, et moi, ça m'a fascinée. De pouvoir voir en grand quelque chose qu'il faudrait voir avec un microscope et voir ces petits microbes s'animer. Enfin, d'un coup, tu vois l'infiniment petit qui s'anime devant toi. Mais c'est dingue. Moi, ça m'a révolutionné l'esprit. Et c'est en allant à la Fondation Maeg que j'ai voulu devenir artiste. Ça, c'est sûr.
Waouh! Trop chouette.
Et c'est j'aime bien ce musée parce que y a pas, c'est pas une accumulation. Là, si tu vas dans des musées anciens, tu vois le Louvre, le Prado, le Rijksmuseum, c'est des murs, des couloirs super larges, entiers, qui sont remplis de tableaux figuratifs, des portraits, des scénettes, des paysages, des guerres, des trucs comme ça. Et donc, du coup, c'est trop. Normalement, quand tu vas voir un musée comme ça, tu vas dans une salle et même tu regardes 2-3 tableaux, et puis après tu t'en vas. Tu ne peux pas tout t'embrasser, et puis il y en a beaucoup trop. C'est comme chez Sephora, tu ne peux pas. Donc c'est joli à voir comme ça, passer dedans, traverser, sans « waouh, t'es au milieu des chefs-d'œuvre ». Mais à la Fondation Maeg, c'est dans un jardin. Donc il y a beaucoup de choses dehors, des fontaines, des mobiles, beaucoup de choses qui sont comme en land art, posées dans un jardin de pin parasol qui sent bon, mais bon. Et il y a des bassins de Miro, et il y a du Kandinsky, et il y a les petites silhouettes de Modigliani sur la terrasse. C'est fabuleux. Une fois que tu as payé ton entrée, tu peux y rester toute la journée. Et franchement, tu es là et tu es tout seul dans la nature face à une œuvre d'art merveilleuse, colorée. Voilà, c'est une discussion, c'est un dialogue. Et c'est à mon avis dans ce type de musée que tu peux vraiment goûter à l'art contemporain et être heureux de prendre le temps, tu vois, de déguster ça comme un bon repas, comme une bonne glace, comme un truc délicieux ou carrément un plat exotique auquel tu n'aurais jamais goûté. Faut laisser se bercer par ça. Et puis, il faut simplement s'éduquer à se dire, tiens, mais qu'est-ce que j'éprouve en regardant ça ? Et tiens, qu'est-ce que j'éprouve en regardant ça ? Et tiens, qu'est-ce que j'éprouve en regardant ça ? Et se plonger là-dedans en essayant de se dissoudre. Parce que c'est ça le travail, en fait, c'est de la dissolution pour voir ce qui reste à la fin. Donc merci à Vassili Kandinsky. Donc il faut savoir quand même que le centre Georges Pompidou a été fait aussi pour recevoir ce type de peinture d'art moderne. La femme de Kandinsky, qui est morte après lui, a offert la collection au musée, et donc c'est eux qui en ont la charge, et là j'espère encore avec ces travaux de 10 ans ou de 5 ans du centre Beaubourg que les œuvres vont voyager un peu partout et de redécouvrir ces couleurs qui piquent et l'audace des couleurs qui piquent les yeux. Là tu sais, on a refait l'affiche de Barnave aux artistes et Vince me disait ouais c'est bien, ça pique et là c'est pareil, ça pique, mais c'est pas pour rien que ça pique. Donc laissez-vous piquer les yeux. Et puis, laissez-vous surtout guider, parce que c'est un peu des rêves auxquels... Enfin, voilà, c'est une main tendue vers un rêve qui t'est, t'est offert. Voilà.
Et juste pour finir, moi, je voulais en parler. J'ai vu ça et comme on avait parlé de ce peintre aussi, apparemment, c'est Monet aussi qui a inspiré Kandinsky à devenir peintre.
Oui, il paraît qu'il avait vu Claude Monet. Et donc, oui, il a d'abord vu petit une exposition sur les impressionnistes. Et ben voilà, il était tombé amoureux. Mais bon, t'as vu, ouais. il y a
ça
aussi.
Ça a des, enfin, c'est pas tant ressemblant par rapport aux œuvres de Monet, je trouve. C'est pour ça que je trouvais ça super sympa.
Parce que c'est des mouvements de peinture
différents, carrément.
Très différents. Là, on a affaire à ses parents, quoi. Les impressionnistes, c'est les parents. Il est né en 66, donc là, ils sont en plein Cantinet. C'est la pleine effervescence, justement, de ce mouvement-là. Mais lui, il va amener autre chose. Et aussi, c'est. La maturité, parce qu'en fait, il va abandonner ses études et tout. En fait, il va se taper pendant 30 ans une formation universitaire de haut niveau et il va tout abandonner vers 30 ans pour se consacrer qu'à la peinture. Et du coup, chez lui, il y a eu toutes les sciences et toute la recherche et tout le travail intellectuel avant de se jeter à bras le corps dans l'expression artistique. Et il a cette maturité. Il commence déjà avec une forme de maturité qui est celle de ses 30 ans. Et déjà de la belle expérience qu'il a de voyage. Alors, on verra sur ses œuvres de jeunesse le côté folklorique russe dont on a parlé avec Sonia Delaunay. Tu sais, les patchworks traditionnels russes et cette campagne russe où les dames, les paysannes, elles sont habillées avec des tissus mélangés, bariolés et tout ça. Et ça, c'était intéressant de voir parce que ça fait une connexion justement avec Sonia Delaunay et Robert Delaunay, qui va être son copain, et on comprend mieux pourquoi. Et aussi, cette base de la Russie folklorique et des patchworks traditionnaux tirés de la paysannerie, de la paysannerie russe, pardon. Donc, on voit qu'il y a aussi c'est-à-dire, on se sert de la tradition populaire. Et on l'étire et on la sublime pour, quelque part, sous une forme artistique différente, de la faire exposer au musée. Mais derrière ça, sans la tradition folklorique des paysans, partout où ils sont, il n'y a pas non plus cet œil et cette mise en place des couleurs. Donc la peinture s'appuie toujours sur quelque chose, un savoir. Et le folklore populaire est une très bonne base pour l'improvisation picturale. Et je prends justement le terme improvisation picturale pour faire honneur à Vassili. Et ben voilà, Malo,
on est bon. Je finis juste avec quelque chose qu'il a écrit. Je pense que ça peut très bien clôturer cet épisode. L'art est le seul langage que l'âme puisse entendre.
Oh, c'est merveilleux. Oh, ça, j'adore. Ah oui, alors parce que c'est merveilleux, mais on a oublié de parler d'un truc super important. Pardon, c'est le Baos. Donc, il avait formé un mouvement artistique de recherche, sur la forme, le fond, la couleur, qui s'est appelé le Baos et qui part aussi de l'architecture et qui a été donc Berlin, Weimar et Odessa. Et du coup, malheureusement, ils ont été tout de suite confrontés à l'hostilité des nazis. Parce que là, tu as vu l'époque, donc hop, 1914, Première Guerre mondiale. Et après 1939, il est peinard à Paris, Deuxième Guerre mondiale. Donc le pauvre, il a dû aussi courir au-devant des nazis vite, très vite. Parce que ce type de recherche était totalement jugé comme satanique par les nazis. Donc il y a aussi... ce courant-là, donc retenir Die Blaue Reiter, le cavalier bleu, et son travail avec la Bauhaus et le Bauhaus, et se dire aussi que justement la recherche en architecture, enfin on n'en a pas fini avec les recherches, qu'elles soient justement les recherches sur l'architecture, la meilleure façon d'habiter et l'urbanisation. Parce que c'est des gens qui ont aussi qui ont aussi développé un grand intérêt pour la vision du futur, la démographie, les villes, les mégalopoles, comment vivre en harmonie, nous petits humains, artistes, dans des milieux de surpopulation et tout ça. Donc ils se sont aussi posé les questions de notre avenir. Et Kandinsky, qui s'intéressait beaucoup aussi à l'architecture, donc la manière d'habiter, où habiter, comment habiter.
Ça se voit sur ces toiles. Je trouve que ça fait un petit peu justement comme comme les travaux des architectes, ces côtés très symétriques, très sommes et pensées, un peu un plan architectural abstrait.
C'est ça. Donc après, il a quand même donc exposé en 1933 au Salon des Surindépendants. Donc voilà. Et puis, il y a eu la grande synthèse jusqu'à sa mort, donc 1934-1944. Donc, tout à Paris. Donc là, c'est lui qui va initier les Parisiens à l'art abstrait, la géométrie. Il habite dans un petit appartement et il travaille dans sa salle de séjour. Il va travailler sur des formes biomorphiques avec des contours tout souples ça évoque des organismes microscopiques qu'on disait là, les fameuses boîtes de Pétri avec l'infiniment petit. Et il va chercher des compositions avec des couleurs inédites. Il fait de la recherche. Il va aussi, par rapport à ces électrons libres là, utiliser du sable pour sabler sa peinture, pour faire comme s'il y avait des microparticules dedans. Donc ça, c'est vraiment le côté atomique, sableux, électrique, électronique de sa peinture. Et puis entre 36 et 39, il va faire ses deux grandes dernières toiles qui sont soigneusement élaborées, longuement mûries, et donc qui sont compositions neuves, et où celle où il y a les diagonales puissantes là, et puis la composition 10 où il y a des bandes colorées là qui ont l'air de sortir d'un fond noir, comme des fragments ou des filaments d'étoiles. Et là, on a vraiment affaire à du cosmique. Voilà, donc il y a beaucoup de choses qui sautent aux yeux, mais c'est peut-être pas ça qu'il faut écouter en premier. Il y a plein de petites sonorités, plein de petites musiques, plein de petits vibratos, plein de petits moderatos, plein de petits sfumatos, non pas des sfumatos parce que ça c'est vraiment pictural et pas musical, mais bon, faut voir ça un peu comme des partitions de musique en fait. Et je pense que s'il y a parmi vous des musiciens qui n'y connaissent rien en peinture, ben clairement, il faut commencer par ces partitions-là, prendre son violoncelle. Alors, il jouait du violoncelle Kandinsky, mais je pense pas que. Je sais qu'il écoutait du Wagner et qu'il était fou. Bon, alors ça semble bizarre, mais je pense qu'il devait écouter du jazz, parce que c'est clair qu'avec Robert Delaunay, ils ont dû s'écouter à fond du jazz. Et il faut une musique défragmentée et de l'improvisation et du scat pour aussi se lancer dans une peinture comme ça. Après, je sais que quand moi, je pose mon regard dessus, j'arrive à voir des bonhommes, des figures. Enfin, j'arrive à remettre de la figuration dans tous ces trucs. Des fois, je vois des bouquets de fleurs jetés en l'air. Des fois, je vois de l'architecture. Enfin, c'est tellement riche de forme et de dynamisation de la forme qu'il y a vraiment à manger, à boire et à se régaler pour tout le monde. C'est un art à la fois très complexe et très simple. C'est ça que je trouve aussi génial, quoi. Tu sens bien que ça a été fait par un esprit puissant, mais c'est offert en toute gentillesse, en toute simplicité, en toute humilité. Il y a vraiment quelque chose que j'adore là-dedans et qui m'a donné envie d'être peintre. Alors, je fais un grand, grand merci à Vassili Kandinsky. J'espère que bientôt, on reverra ses œuvres sur les murs des musées. Et je remercie sa femme Nina Kandinsky, qui a créé en 1946, si j'ai bon, le prix Kandinsky, qui cherche à couronner la recherche des jeunes peintres qui font dans l'abstraction. Voilà. Donc du coup, encore aujourd'hui, je ne sais pas si ce prix existe toujours, mais a priori, oui. Alors moi, je ne fais pas trop dans l'abstraction, donc j'y aurais pas droit, mais merci à Nina, parce que c'est pas facile d'être la veuve d'un artiste quand il a cette puissance et que t'es obligé de lui organiser des expositions. Faut pas que son art meure. Le peintre peut mourir, mais son art, lui, il faut qu'il reste et qu'il perdure et qu'il se développe et qu'il voyage. Enfin, c'est tout un boulot à part entière, quoi. Donc Nina, elle a bien travaillé, elle est morte pas longtemps après lui, mais elle a eu l'intelligence aussi de créer ce prix. Et c'est vrai que faire le don d'œuvre, c'est une bonne chose. Créer un prix au nom de son mari, c'est une deuxième bonne chose. Voilà. Eh ben Malo, je vous embrasse. Merci mes chéris pour votre curiosité, votre patience et votre intérêt. Des bisous à Émilie, notre fan number one. Et à la semaine prochaine, Malo d'amour.
Tout à fait. Merci beaucoup à toi, Carotte, pour ce bon moment passé sur les ondes de RDIWA.
Vous êtes bien sur Radio Diwa.
J'écoute RDIWA. Parce que comme dit Coluche, on peut pas dire la vérité à la télé. Parce qu'il y a trop de gens qui regardent.